Si vous voulez prendre le livre de Daniel, chapitre 5. Et donc, on va lire ce chapitre 5. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui est écrivée. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone : « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent. Mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. « Ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. » Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à celle des dieux, à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, et le roi, ton père, l'établirent chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel : Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda ? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » Au roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, il laissait la vie à ceux qu'il voulait, et il élevait ce qu'il voulait et il abaissait ce qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son cœur, son corps fut trempé de la rosée du ciel. Jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison étaient apportés devant toi et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes, tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Compté, Dieu a compté ton règne, y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Donc Daniel est toujours à la cour de Babylone. Il vient de vivre le règne de Nebuchadnezzar et il est maintenant sous le règne de Belshazzar, petit-fils de Nebuchadnezzar. Pourquoi petit-fils ? Parce que Belshazzar régnait avec Nabonide, son père. C'est pour ça qu'il dit à Daniel, tu auras la troisième place. Parce qu'il y avait lui, son père, et il y aurait eu Daniel. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de ce récit ? Il y a plusieurs choses que l'on peut apprendre. D'abord, sur la nature humaine au travers de Belshazzar. La première leçon à tirer de cette histoire, c'est que l'homme n'a pas de mémoire. Belshazzar a grandi à la cour du roi Nebuchadnezzar. Il a vu l'élévation de Nebuchadnezzar. Il a vu la chute. Il a vu le rétablissement du roi. Et s'il ne l'a pas vu de ses yeux, admettons, on ne sait pas son âge, il est impossible qu'il n'en ait pas entendu parler, c'est certain. L'histoire de son grand-père, c'était quelque chose de récent, ça faisait partie des annales, c'était écrit, et chaque roi devait connaître aussi eh bien, ce qui s'était passé avec ses prédécesseurs. Et Daniel le rappelle au verset 22, il dit, quoi que tu saches ces choses, hein, c'est pas, tu ne pouvais pas les ignorer. Et il faut se souvenir des paroles aussi de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a dit, Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance, il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Donc c'est Nebuchadnezzar qui a fait ça. Ça signifie qu'en fait, il a publié son témoignage, ce qu'il a vécu avec Dieu. Il a voulu que tous les peuples puissent le connaître, qu'ils sachent l'expérience qu'il avait faite avec Dieu. Du coup, ça me permet d'ouvrir une parenthèse. Le témoignage, on voit que c'est quelque chose d'important ici, le témoignage. Parce qu'on témoigne de ce que l'on a rencontré Dieu, d'une expérience que l'on a fait avec Dieu. Alors, eh bien, d'autres sont poussés eux aussi, à faire un pas avec Dieu et de venir vers lui. On voit l'apôtre Paul, il avait bien compris, dans le livre des Actes, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va donner son témoignage. C'est tout un chapitre où il dit, voilà, j'étais sur le chemin de Damas, etc. Et il explique et il donne son témoignage qui sera répété une deuxième fois dans le livre des Actes. Et Nebuchadnezzar, eh bien, a fait cela de son temps. Il a carrément, lui, publié son témoignage pour la terre entière. S'il y avait eu Internet, il aurait fait un blog et il aurait écrit son témoignage pour que tout le monde puisse l'avoir. Donc Belshazzar a entendu le témoignage de son grand-père, châtié d'abord pour son orgueil et puis ensuite rétabli comme roi de Babylone après sa repentance. Alors certes, le royaume de Babylone était païen, le paganisme était partout, les faux dieux étaient partout dans Babylone. Mais néanmoins, la connaissance du vrai Dieu, elle était aussi là. Elle était présente à Babylone. D'ailleurs, Nebuchadnezzar a respecté les vases d'or qui venaient du temple de l'Éternel. Lui, il n'y a pas touché. Il les a laissés là où ils étaient. Mais Belshazzar, apparemment, ne s'en souvient pas ou ne veut pas s'en souvenir. Il occulte, il met de côté. Et c'est une vérité que l'homme a souvent une mémoire qui est défaillante. Notre mémoire nous fait défaut. Même quelqu'un à qui l'on dit il a une mémoire d'éléphant, eh bien ça n'empêche, il y a plein de choses qu'il oublie. Il y a des leçons du passé, hop, c'est comme si on ne les avait pas vécues. Alors on va peut-être s'en souvenir plus tard, mais d'un seul coup, eh bien ça disparaît. Il y a des expériences néfastes, des prédécesseurs que l'on oublie. Et c'est pour ça aussi que Dieu veut que nous entendions encore et encore et encore la parole de Dieu. Et toujours la parole de Dieu. Le Seigneur nous donne des rappels et il répète. Hein, parce que ça ne suffit pas d'entendre une fois, deux fois, trois fois. Il faut le réentendre encore. Il faut que ça soit toujours présent devant nos yeux. Sinon, on oublie. On oublie. Je me souviens d'un frère qui, en son temps, lisait les proverbes tous les midis. Tous les midis, il lisait un ou deux chapitres des proverbes et il tournait comme ça. Ce qui fait que les proverbes étaient toujours présents. Je ne sais pas combien de temps il a fait ça, mais longtemps. Et puis après, ben voilà, on change, on fait autre chose. Et un jour, il a fait quelque chose qui est vraiment dit clairement dans les proverbes qu'il ne faut pas faire. Mais pourtant, il connaissait quand même bien les proverbes, il les avait tellement lus. Mais voilà, à un moment, la mémoire, elle nous fait défaut, on oublie, on a besoin d'y revenir. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger de lire la Bible, lire le matin, lire chaque jour. Mais alors, peut-être que Belshazzar a occulté volontairement l'histoire de ses pères. Il a méprisé peut-être le passé auquel il ne voulait pas croire. Peut-être que l'ordre de prendre les coupes d'or, c'était carrément de la provocation. Des coupes, il y en avait plein au palais de Babylone. Hein. Il y en avait énormément. Mais non, il voulait ces coupes-là, celles-là. Et il n'a pas pris le Dieu d'Israël au sérieux. Il n'a pas voulu retenir ce qu'il avait entendu ou reçu de lui. Donc c'était certainement un rejet qui était aussi conscient de l'Éternel. Et Daniel le tient responsable. Bien que tu saches ces choses. La deuxième leçon à tirer de cette histoire, c'est que l'homme est porté naturellement vers les plaisirs de la chair plutôt que vers ce qui est spirituel. Dieu a dit au travers d'Israël, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Deutéronome 6,5. C'est un commandement valable pour Israël, mais c'est aussi un commandement qui est valable pour tous les hommes. Dieu l'attend de tous les hommes. Dieu veut que chaque homme puisse aimer l'Éternel de tout son cœur. Et si Dieu n'a pas donné ce commandement à chaque homme, il l'a donné à Israël. C'est que Israël, eh bien, devait être un canal qui conduit justement au vrai Dieu et qui conduit à aimer l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. C'était à Israël d'enseigner ce commandement. Et on peut dire que c'est ce que Daniel, juif, a parfaitement fait quand il était à la cour de Babylone. Daniel reflétait le vrai Dieu, il aimait le vrai Dieu, il témoignait de lui par sa vie, par sa sagesse, par tout ce qu'il faisait. Et c'est par Daniel que Nebuchadnezzar est arrivé à la connaissance du vrai Dieu. C'est tout ce qu'il avait reçu de lui, hein, qui a pu travailler dans son cœur, l'amener à une vraie repentance et finalement à le reconnaître de toute son âme. Par lui, Nebuchadnezzar a pu comprendre et saisir qu'il n'y avait qu'un seul Éternel et qu'il fallait l'aimer vraiment de tout son cœur. Et ça, c'est ce que Dieu attend de chaque homme. Mais bien que Belshazzar ait reçu ce témoignage, il s'est laissé plutôt glisser vers l'assouvissement de ses plaisirs, de ses passions. Il a voulu boire, s'enivrer, faire la fête, hein, se réjouir avec ses femmes nombreuses et ses concubines. Belshazzar n'aime pas l'Éternel de tout son cœur. Belshazzar ignore l'Éternel. Et Belshazzar oriente sa vie vers le plaisir seul. Et c'est bien là une réalité sur l'homme, c'est que la vraie spiritualité, elle passe souvent en seconde position, seconde place. C'était vrai ce jour-là, pour le roi de Babylone, et c'est vrai aujourd'hui. Vous regardez la vie d'aujourd'hui, vous faites un constat, c'est évident. La Bible dit qu'à la fin, il y aura des temps difficiles, des jours difficiles, parce que les hommes seront égoïstes, les hommes seront amis de l'argent, les hommes seront irréligieux, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Donc voilà, c'est le plaisir, le plaisir, le plaisir, et Dieu après, s'il a un après. Et c'est quelque chose de bien visible. L'homme pense à manger, boire, satisfaire ses besoins, et même bien au-delà de ses besoins. Ça, c'est ce qui compte pour lui. Dieu l'a dit en d'autres termes à ses disciples. Il a dit, attention, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et Jean, dans sa première épître, lui dit, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux viennent s'opposer à l'amour que nous avons pour Dieu. Mais si Dieu ne nous prive de rien, et c'est important de le dire, Dieu a fait, il a fait des plaisirs sur cette terre, il a fait des choses bonnes, mais parce qu'on est ses créatures, parce qu'il nous aime et qu'il voulait nous donner aussi des plaisirs, il a fait pour nous. Dieu ne nous prive pas, mais Dieu veut tout de même que nous mettions les bonnes priorités dans nos vies. Lorsque l'estomac des disciples commençait à bien gargouiller, là, ça se tournait dans tous les sens, ils ont amené des pains à Jésus, et puis ils lui ont dit « Mange, maître, hein, mange, hein, voilà, on va manger ensemble. Hein. » Ils avaient très faim. Et à ce moment-là, Jésus leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc, tout de suite, la bonne priorité. D'abord, servir Dieu, et puis après, servir son estomac. Et c'est quelque chose qu'on doit aussi garder présent à l'esprit. Naturellement, nous sommes portés à favoriser la chair à l'esprit. Nos besoins à ce que Dieu nous demande. Notre confort à ce que Dieu attend de nous. Dieu ne nous prive de rien, mais il veut être le premier servi. C'est pour ça qu'il a dit au jeune homme riche, « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et puis après, viens, suis-moi. » C'était afin que le jeune homme, eh bien, mette les bonnes priorités dans sa vie. Une troisième leçon à tirer de cette histoire, c'est que l'homme manque naturellement de sagesse. Belshazzar est roi d'un empire immense, et pourtant il va boire comme le misérable de son royaume au coin de la rue. Exactement pareil. Alors le texte est sommaire, mais finalement il en dit quand même suffisamment, puisqu'il est dit d'abord qu'il but du vin au verset 1, puis il prend une décision lorsqu'il eut goûté du vin. Alors, je ne pense pas qu'il faille prendre l'idée de goûter, simplement il a trempé les lèvres dedans. Darby, lui, va traduire « comme il buvait du vin ». Chouraki, je trouvais intéressant, il a traduit « sous le goût du vin ». Voilà, c'est que, ben, voilà, il commençait à bien boire. Hein. Et puis, alors, du coup, il dit, on va boire encore plus. Allez chercher les coupes de l'Éternel. Et on va continuer à boire. Dans le livre des Proverbes, on lit ce conseil, Proverbe 20, verset 1, il dit, le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Et c'est tout le contraire de la sagesse que de se laisser emporter à être enivré sous le vin. Et c'était un manque de sagesse vraiment pour un roi. Et même si on n'est pas tous des alcooliques, on manque tous de sagesse. Ça, c'est un fait. Nous manquons de sagesse. Par cette histoire, on voit que quelqu'un peut faire des choses qui sont déraisonnables, qui vont lui porter vraiment préjudice. Regardez comment un homme futur présidentiable à la tête d'une des plus hautes instances internationales, voit son destin tourner en 10 minutes. Alors, j'ai cru comprendre qu'on va avoir des réponses ce soir, mais je ne crois pas qu'il va le dire qu'il s'est fait violer par une femme au Sofitel. Personne ne le croira. Personne ne le croira. Et l'homme intelligent manque parfois d'une sagesse élémentaire. Il fait des choix et ça lui porte préjudice. Et un mauvais choix, souvent, entraîne un autre mauvais choix. Et après, on avance comme ça. Vous connaissez bien l'histoire de David. Hein? Mauvais choix. Et puis après, deuxième mauvais choix. Il choisit donc Bathsheba. Il couche avec elle. Puis après, il fait tuer son mari pour régler la question. Pourtant, David n'était pas quelqu'un de stupide. Mais si Dieu n'intervient pas, hop, on manque de sagesse. Et là, on se trompe. On peut aller de mauvais choix en mauvais choix. Belshazzar est un très grand souverain, mais il va boire du vin. Et puis il ordonne, maintenant, allez chercher les coupes, et on va continuer à boire dans les coupes de l'Éternel. et il s'est enivré et souillé avec des choses saintes que Dieu réservait pour le temple. Et quand on regarde Belshazzar et Daniel, on se dit, mais quel contraste entre ces deux hommes. Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi et avec le vin qui était servi à la table du roi. Mais Daniel, lui, était rempli de sagesse, d'intelligence, on l'a lu plusieurs fois dans notre texte. Daniel voulait marcher avec Dieu, et c'est saisissant ce contraste du roi avec cette beuverie, et puis de Daniel qui se limite pour son Dieu, qui a toute sa raison, qui a un esprit supérieur, de l'intelligence, une sagesse extraordinaire. Mais maintenant, voyons ce que nous enseigne ce texte sur Dieu. La première leçon, la grande leçon de ce texte, c'est que Dieu est à craindre. Belshazzar, quand il a pris les coupes, il a commis l'irréparable. Ça y est, il a franchi la ligne rouge et la main va apparaître. Et ça en témoigne, il est allé trop loin. Regardez versets 5 et 6. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Alors il faut s'imaginer la scène. Ils font tous la fête, éclat de rire, et ça parle, et il y a la musique, les danses, et soudain, la main qui apparaît là sur le mur de chaux. Alors bien, plusieurs yeux se fixent sur le mur. Imaginez les têtes qui commencent à se tourner les unes les autres dans la même direction. La musique cesse, les conversations cessent, les yeux s'écarquillent, les visages commencent à pâlir, à devenir blancs. Et c'est la peur. Parce qu'il voit quelque chose qui n'est pas rationnel. Une main qui écrit sur le mur. Le roi en perd ses moyens. Lui, commence à claquer des genoux. Et Dieu est à craindre. Dieu fait ce qu'il veut. Et lorsqu'il veut arrêter quelqu'un, il arrête. L'homme a souvent le sentiment que tout lui est permis. C'est simple. Il fait ce qui lui chante, personne ne lui dit rien. En tout cas, il semble qu'il n'ait rien à craindre de personne. Mais Dieu est à craindre. Dieu est à craindre. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Psaume 110, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ça veut dire qu'il est sage, il est bon, il est raisonnable de craindre l'Éternel. Parce que Dieu, ce n'est pas un homme. Dieu, c'est le Créateur, Créateur de nos âmes. Et on lui doit la vie, l'existence, l'être. Tout à l'heure, on a lu pour Belshazzar. Daniel lui dit, mais est-ce que tu te rends compte que Dieu a dans sa main ton souffle et toutes tes voix? Il tient ton souffle. Ce qui veut dire que Dieu a des droits sur nous. Il exige et il attend certaines choses de ses créatures. Dieu est exigeant. Il est dit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. On exigera davantage à qui l'on a beaucoup confié. Et Dieu attendait de Belshazzar qu'il le respecte, qu'il le rencontre, qu'il l'honore. Dieu voulait qu'il s'humilie, selon les paroles de Daniel, ce que Belshazzar n'a pas fait. Et à ce moment-là, paf, le couperet est tombé. Alors ça peut sembler sévère, mais Dieu est sévère. Il est sévère. Quand un jugement de Dieu tombe, c'est un jugement qui est sévère. Mais ça, c'est qu'un aspect de la vérité. Dieu n'est pas que sévère. Dieu est aussi bon. C'est l'autre aspect de la vérité. Et les deux vont ensemble, bonté, sévérité. Dieu est bon, Dieu est sévère. Paul a dit aux Romains, Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Et les deux vont ensemble. Bonté, sévérité. Mais le malheur, c'est que l'homme fait souvent abstraction de l'un pour l'autre. Il sépare les deux, il dissocie. Les uns se focalisent sur la sévérité. Et qu'est-ce que ça produit ? Oh, du mépris, de la raillerie. On rejette. On a un Dieu qui jette en enfer. Un Dieu qui punit, un Dieu qui frappe. Mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu-là ? Et finalement, on méprise et on rejette parce que l'accent est mis sur la sévérité. On ne l'accepte pas. Et puis d'autres se focalisent sur la bonté. Oh Dieu, il est bon, il aime tout le monde. C'est un peu un Dieu guimauve, là. Les bons, les méchants, tout le monde sera sauvé. Mais la Bible dit, considère donc la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. Il est infiniment bon, mais il est aussi sévère. Et sa sévérité, elle est proportionnelle à sa bonté. Les deux vont ensemble. Regardez Matthieu 11, et on va lire les versets 21 à 24. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Et on a ici des villes qui vont passer un mauvais moment au jour du jugement dernier. Dieu dit que Sodome, ville pourtant perverse, et on le sait bien, sera traitée moins rigoureusement que par Capernaüm. Incroyable. Pourquoi ? Parce que Capernaüm a connu beaucoup plus de bonté que Sodome. À Sodome, le Fils de Dieu n'a pas marché dans les rues. Mais à Capernaüm, le Fils de Dieu était dans les rues. Capernaüm, c'est le village où il y avait la maison de Pierre. Ça veut dire que Jésus était dans ce village. C'était le village de Jésus. Il dormait chez Pierre, il mangeait chez Pierre. Il a fait des miracles dans le village. Il a guéri la mère de Pierre qui avait la fièvre et qui s'est levée et qui les a servis. Personne ne pouvait ignorer ça dans le village. Ils le savaient tous. Ils connaissaient Jésus. Et Capernaüm ne s'est pas repenti. La sévérité de Dieu sera donc proportionnelle à la bonté que Dieu a eue pour Capernaüm. Et de même, Belshazzar a eu un témoignage proche du vrai Dieu, quoiqu'il était dans un pays lointain, païen. Son grand-père Nebuchadnezzar, quand il est parti en louant, en exaltant, en glorifiant le Dieu des cieux. Voilà, le grand roi de tout le royaume est parti comme ça. Et Daniel n'était pas très loin. Si on voulait, on pouvait le trouver, Daniel, qui lui témoignait vraiment du vrai Dieu. Mais il n'a pas cherché Dieu, Belshazzar ne s'est pas humilié, alors la sévérité de Dieu s'est manifestée. Et la sévérité de Dieu est toujours proportionnelle à sa bonté. Il se peut qu'aujourd'hui, on se dise, mais Dieu est très exigeant peut-être avec moi. Il nous semble sévère, mais sa bonté est à la même mesure. Dieu donne ce qu'il ordonne. Et s'il nous ordonne quelque chose, ben il veut aussi nous donner ce qui nous manque pour faire ce qu'il nous ordonne. Il veut nous donner la force de le faire. Il ne faut pas qu'on doute de cela. On en a un exemple dans le psaume 68. Verset 29, il dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis au Dieu ce que tu as fait pour nous. » Donc, Dieu ordonne ici d'Israël. Il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il nous l'ordonne aussi. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, que tu sois persévérant. Mais à la fin du psaume, regardez verset 36. Il dit, de ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. béni soit Dieu. Et là, on voit que Dieu donne ce qu'il ordonne. Il ordonne que tu sois puissant, mais c'est ton Dieu qui te donne la puissance. Il est sévère, mais il est aussi bon, infiniment bon. Et c'est quelque chose que l'on voit aussi dans la vie de Nebuchadnezzar. Il est très sévère, mais il est aussi bon. Sévère dans son jugement, mais aussi bon dans son rétablissement. Mais en pensant à ces choses, ce qui m'a arrêté et qui m'a laissé sans voix, ce qui m'émerveille maintenant, c'est que Dieu fut très sévère avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus a enduré la croix, il a subi notre jugement, alors qu'on puisse mesurer la sévérité de Dieu à l'égard de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Imaginez, le Fils de Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Jésus, et on pourrait développer, mais il n'a pas simplement subi les coups et la souffrance et la douleur et ces choses-là sur la croix. Mais Jésus a souffert aussi la souffrance, la douleur de l'abandon. Il s'est senti abandonné. Abandonné. Abandonné du Père éternel. Sentiment qu'il n'avait jamais ressenti de toute éternité. Soudain, il était seul. C'était un jugement sévère, très sévère. Et c'est important de mesurer cette sévérité. Parce que la bonté qu'il nous accorde à nous aujourd'hui, elle est proportionnelle. Proportionnelle à la sévérité de la croix. Si aujourd'hui Dieu nous tend la main pour nous relever sans cesse le long du chemin, s'il ne se lasse pas de nous pardonner, d'entendre nos prières, d'entendre nos plaintes, parfois, s'il ne se lasse pas de nous consoler, s'il ne se lasse pas de nous entourer, de nous couvrir de son amour, c'est parce que justement Jésus est mort pour nous. Jésus a connu la sévérité de Dieu afin que nous, on connaisse la bonté de Dieu. Et cette pensée, elle doit nous remplir d'humilité et de reconnaissance. Ne considère pas simplement la bonté de Dieu, ne considère pas simplement la sévérité de Dieu, considère la bonté et la sévérité, les deux en même temps. Et après, réponds à cette bonté. Ça, c'est ce que Dieu veut. C'est, on comprend la bonté et on répond à la bonté. C'est pour ça que Dieu est bon avec nous. Il veut qu'on réponde à la bonté par amour. Il y a un verset qui dit: la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La bonté de Dieu, elle doit nous amener quelque part. Elle doit nous amener à lui, à la repentance, à l'humilité, à l'obéissance. La bonté de Dieu nous pousse. Dieu nous aime. Répondons à son amour. Dieu veut nous toucher par sa bonté. Mais que dire si on ne fait pas cas de sa bonté ? Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Mais si ils n'en font pas cas, qu'est-ce qui va se passer? Dieu est à craindre. Dieu est à craindre. Belshazzar en a fait l'expérience. Une deuxième leçon sur Dieu, c'est que Dieu est patient. Cette leçon, on la comprend avec la main qui écrit. Regardez, Daniel va donner l'interprétation au roi, donc verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comptée, Dieu a compté ton règne, il y a mis fin. Pesée, tu as été pesée dans la balance, tu as été trouvé léger. Divisée, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Dieu n'a pas dit compter, peser, diviser. Il a dit compter, peser, diviser. Et dans cette répétition, on peut voir la patience de Dieu. La patience de Dieu. Son jugement, c'est jamais un jugement qui est hâtif. Dieu prend son temps. Il compte une première fois. Il compte encore. Et finalement, il pèse. Et il divise. Et c'est toujours ainsi qu'il agit. Le jugement est toujours mûrement réfléchi. Et même lorsqu'on a l'impression dans l'Ancien Testament que c'est un jugement qui... Dieu a la maîtrise de lui-même. Donc il a fait ces choses aussi pour nous enseigner certaines choses. Et lorsqu'on voit l'humanité athée, incrédule, rebelle, irréligieuse, on peut vraiment mesurer la patience de Dieu. Dieu est patient. L'apôtre Pierre dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Et Dieu use de patience avec l'humanité. Il compte encore. C'est comme l'histoire du figuier que Jésus raconte. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le ! Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Donc, 3 années d'attente et rien. Pas de fruit, rien du tout. Mais la patience de Dieu ne s'arrête pas là. Laisse-le encore. Attends encore 1 an. On attend. Et peut-être portera-t-il du fruit. Dieu est patient. Dieu espère un changement d'attitude, un changement de comportement. Dieu attend que l'âme lui devienne utile, se repente et obéisse. Dans l'Épître aux Hébreux, on lit « Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, elle tombe souvent la pluie, elle tombe, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Et Dieu fait pleuvoir sur les incrédules, sur les incroyants. Et il attend, c'est sa bonté, son amour. Mais l'auteur poursuit, « Mais si cette terre produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. » Donc la patience de Dieu, elle a quand même une limite, à un moment. Il faut que l'homme réponde à sa bonté. Alors l'Éternel a attendu, il a attendu avec Belshazzar, mais à un moment, voilà, ça y est, le jugement est venu. Et la nuit d'après, il était mort. Dieu est bon, mais Dieu est sévère. Dieu est patient, mais Dieu est à craindre. Et j'aimerais conclure avec le contraste entre Belshazzar et Daniel. Quand on les regarde, on se dit deux hommes si différents. L'un vivant essentiellement pour les plaisirs, l'autre vivant premièrement pour son Dieu. Posons-nous la question, pourquoi vivons-nous ? Qu'est-ce qui est le plus important dans nos vies ? Qu'est-ce qui prime avant toute chose ? Qu'est-ce qui nous met en colère quand on ne l'a pas ? Est-ce toujours Dieu et sa parole ? Deux hommes si différents. L'un complètement déraisonnable, se comportant comme un insensé, l'autre rempli de science, d'intelligence et d'une sagesse extraordinaire. Et il est certain que nos choix et notre consécration déterminent aussi notre discernement et notre réflexion. Dieu accorde la lumière, il accorde la sagesse à celui qui marche dans ses voies. Mais le contraire est aussi vrai. Dieu retire sa lumière à celui qui ne veut pas marcher. Deux hommes si différents, l'un léger dans la balance de Dieu, ne pesant pas grand-chose, et l'autre, un instrument qui est utile de sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse, toujours utile pour le Seigneur. L'un dans les ténèbres aujourd'hui et l'autre dans la lumière. Dieu nous aime, il nous l'a prouvé en nous donnant Jésus, son Fils. Et sa sévérité sur le péché, elle s'est exprimée sur Jésus-Christ en croix. Et Dieu l'a fait afin de nous accorder sa bonté. Mais il faut répondre à la bonté de Dieu. Il faut se repentir. Il faut croire. Naturellement, on peut dire que nos vies, elles sont légères. elle ne pèse pas grand-chose, naturellement. Mais Jésus est mort pour nous sauver, et puis après pour que nos vies eh bien, pèsent quelque chose, qu'elles aient un poids conséquent, non pas le nôtre, mais le sien. C'est lui qui pèse dans la balance. Il veut que notre vie compte. Simplement croire, se repentir et le laisser vivre. Certains hommes entendront peut-être compter, compter, peser, diviser. D'autres entendront compter, compter, peser, multiplier. Parce que ben, ils auront porté beaucoup de fruits. On va s'incliner dans la prière.